Vous êtes sur RTL.
Votre journal avec Isabelle Choquet. Bonjour Isabelle.
Bonjour Julien, bonjour à tous.
Le chirurgien boucher de Grenoble, visé par une enquête préliminaire.
C'est une information RTL. Ce spécialiste du dos est accusé de nombreuses opérations ratées. Incroyable témoignage dès le début de ce journal. La colère et l'indignation après la découverte de tags anti-flics sur la gendarmerie de Landivisiau en Bretagne. On y retrouve le slogan de l'acte 23 des Gilets jaunes. Suicidez-vous. 3 minutes de silence ce matin au Sri Lanka après les attentats de Pâques qui ont fait 310 morts selon un nouveau bilan. Un Français figure parmi les victimes. À suivre également le paradoxe du petit patron, heureux mais surmené jusqu'à 70 heures de travail par semaine. Et puis le retour des touristes au pied de Notre-Dame, soulagement pour les commerçants.
Deux fois le temps d'ici 6h30.
La chaleur résistera dans l'Oise, 25 degrés cet après-midi à Chantilly sous un ciel voilé.
RTL Matin.
C'est RTL qui vous a révélé cette affaire il y a 2 semaines. Le chirurgien de Grenoble, accusé d'opération ratée, est désormais dans le collimateur de la justice.
Selon nos informations, ce spécialiste du dos est visé par une enquête préliminaire pour mise en danger d'autrui. L'ouverture d'une information judiciaire et la nomination d'un juge d'instruction ne devraient pas tarder. Au moins 7 plaintes ont été déposées, mais la Sécu a recensé 50 de dossiers suspects. RTL a retrouvé certaines de ses victimes présumées. Il y a notamment Éric Berton qui a failli mourir d'une grave infection et pour cause, le chirurgien avait oublié une compresse dans sa gorge.
Au niveau de ma gorge est apparu un genre de kyste infectieux. C'était une grosse boule qui formait un volcan, on va dire, au niveau de la gorge. Au bout de 2 semaines, le volcan est devenu un cratère. Hein. Tout le pus est sorti et ce qui me faisait un gros trou dans la gorge. C'était pas joli à voir et l'infection était toujours là. 2 mois après, le chirurgien en question décide de me réopérer en urgence. Et là, il constate qu'il avait oublié une compresse, ce qui propageait l'infection et ce qui explique le kyste et l'infection qui sortait de ma gorge. Il a reconnu son erreur dans ma chambre en me disant « Monsieur, ce n'est qu'une compresse ». J'ai été choqué.
Pour vous, cet oubli de compresse est gravissime.
Ah oui, j'aurais pu en mourir. Une infection se propageait dans mon corps. Si on n'avait pas cherché plus, je serais plus là pour en parler. Je suis très en colère contre lui. Pour moi, c'est pas un chirurgien, hein, c'est un boucher. Hein. Le conseil de l'ordre devrait lui enlever son autorisation d'exercer. Parce que 18 mois de suspension, pour moi, c'est rien par rapport à ce que toutes les victimes ont subi. Il y a une justice, j'espère qu'elle sera là et qu'elle fera son travail.
Un document RTL signé Serge Puyot. Un violeur présumé recherché dans le Gard. Une femme de 40 ans affirme avoir été violée hier matin alors qu'elle faisait son jogging dans le village de Saint-Alexandre près de Pont-Saint-Esprit. Un portrait robot pourrait être diffusé.
C'est une haine anti-flic qui se propage dans le sillage des Gilets jaunes. En Bretagne, une gendarmerie a été taguée.
La gendarmerie de Landivisiau dans le Finistère. Suicidez-vous, flic suicidé à moitié pardonné. Voilà ce qui a été inscrit vraisemblablement dans la nuit de dimanche à lundi. Faute d'orthographe incluse. Suicidez-vous, c'est aussi le slogan repris par les manifestants à Paris lors de l'acte 23 des Gilets jaunes. Une enquête est ouverte pour outrage. La maire de Landivisiau, Laurence Clay, s'est scandalisée.
Quelle était mon indignation, ma révolte et puis la haine, quoi. La haine de voir ce genre de choses affichées. D'abord, ma première pensée a été aux gendarmes, parce que les gendarmes sont là pour nous protéger, pour veiller sur nous, pour nous défendre. Et je n'accepte pas de voir ce genre de choses taguées sur le fronton de la gendarmerie. Si c'est des gens qui ont été influencés, parce que ça doit être gravé au fond d'eux, ce genre de choses. Si c'est ça, c'est encore plus triste et je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'on identifie très vite les personnes responsables. C'est inadmissible ce qui arrive. Et je vois tous les Landivisiens qui sont passés dans la rue étaient indignés et révoltés en disant il faut pas que ça continue, il faut que ça s'arrête tout ça. On s'imagine pas qu'un jour on puisse voir ce genre de choses sur les murs de la gendarmerie.
La maire de Landivisiau dans RTL Grand Soir avec Christophe Pacot. Un pompier du Val-d'Oise soupçonné de faire partie des Black Blocs devrait être jugé aujourd'hui en comparution immédiate. Il a été interpellé samedi à Paris lors de l'acte 23 des Gilets jaunes. Dans son sac, des cocktails Molotov, des feux d'artifice et une banderole anti-flic. La politique et cette affaire qui tombe bien mal pour Nathalie Loiseau. On apprend que la tête de liste de La République En Marche pour les Européennes s'est présentée sur une liste d'extrême droite lorsqu'elle était étudiante à Sciences Po en 1984. Information de nos confrères de Mediapart. L'ancienne ministre assure qu'elle a accepté sans trop savoir de quoi il s'agissait et qu'elle n'a pas souvenir d'avoir milité ou fait campagne.
RTL 6h et 5 minutes, ce constat maintenant, les petits patrons, ils sont heureux mais ils sont stressés et fatigués.
Oui, c'est ce qui ressort du 5e baromètre MMA de la forme des dirigeants. 9 sur 10 se disent épanouis, mais 70% sont touchés par le stress et le surmenage. C'est qu'en moyenne, ils travaillent 50 heures par semaine et même plus de 70 heures pour 10% d'entre eux. Dans ces conditions difficiles de maintenir maintenir l'équilibre entre vie professionnelle et vie privée. Vie ma vie de petit patron, c'est un reportage RTL de Christophe Ponzio chez un imprimeur parisien.
Georges a l'œil qui pétille quand il lance son imposante imprimante numérique.
J'ai un bon moral, je suis content de ce que je fais. Ça roule pas sur l'or, mais c'est une entreprise qui tient la route.
L'imprimeur passe 60 heures par semaine au milieu des rames de papier couleur et des odeurs d'encre chaude.
C'est pas facile tous les jours.
Le petit patron accuse le coup.
Moi j'ai mal au dos parce que je porte des paquets, le stress on l'a en permanence. C'est des gens qui payent pas, ou là j'ai des gens qui n'ont pas payé depuis le mois de décembre alors qu'on est au mois d'avril.
Et comme 3 entrepreneurs sur 10, la surcharge de travail pèse sur son sommeil.
C'est des nuits blanches, fractionnées, des réveils dans la nuit pour boire un verre d'eau pour essayer de se rendormir après, et ainsi de suite. C'est parce qu'on est quand même responsable de notre personnel, de nos investissements, de ce qu'on fait tous les jours.
Une photo de sa femme et ses 4 enfants trônent sur son bureau mal rangé. Georges reconnaît que l'équilibre entre ses vies professionnelles et privées est précaire.
On ne peut pas s'arrêter et dire je m'arrête à 6h30 alors qu'il y a du monde qui attend à la porte. Souvent ça déborde. Il faut savoir fermer le tiroir du travail, ouvrir celui du loisir ou de la famille et fermer les autres tiroirs. À notre époque, pour être petit patron, c'est vrai, il faut être combattant.
Un combat qui n'empêche pas le chef d'entreprise d'être, dit-il, confiant en l'avenir.
Reportage RTL de Christophe Ponzio du service économie d'RTL.
À l'étranger, le Sri Lanka vient d'observer 3 minutes de silence après les attentats de Pâques.
Oui, les drapeaux ont été mis en berne et les Sri Lankais se sont inclinés en signe de respect. L'état d'urgence a été décrété dans tout le pays. Le massacre est attribué à un mouvement islamique local qui a peut-être reçu un soutien d'organisations internationales comme Al-Qaïda ou l'État islamique. Pour l'heure, 40 personnes ont été arrêtées et le bilan s'est alourdi ce matin à 310 morts. Parmi les victimes, un Français, mais aucune précision pour l'instant sur l'identité de cette personne. On ignore même s'il s'agit d'un homme ou d'une femme. Une cellule de crise a été mise en place au Quai d'Orsay, Arnaud Touche.
Oui, plusieurs dizaines de personnes se relaient 24 heures sur 24 depuis que la cellule de crise a été activée. Il y a d'abord la réponse téléphonique qui est assurée, près de 1000 appels reçus depuis l'ouverture de la ligne. Les agents du ministère des Affaires étrangères sont épaulés par ceux de la Croix-Rouge qui reçoivent les appels des familles, de proches et recueillent des renseignements souvent précieux. Ils notent les lieux de dernier contact et bien sûr les noms des personnes recherchées. En parallèle, ce qu'on appelle une cellule de crise miroir est déployée à Colombo, au Sri Lanka, au sein même de l'ambassade de France, et les deux cellules travaillent en commun. Celle au Sri Lanka a d'ailleurs reçu le renfort de personnel venu de New Delhi et de Paris. Français hospitalisés ou listes communiquées par les autorités locales, tout est échangé et comparé en temps réel. La priorité absolue des deux cellules de crise reste celle des familles. Leur rôle est de leur apporter une réponse fiable et cela peut prendre du temps car il est parfois difficile d'identifier et de contacter les proches des victimes s'ils ne se sont pas encore manifestés.
Explication RTL signée Arnaud Touche. Un nouveau coup dur pour Samsung. La sortie du smartphone pliable qui était prévue vendredi est finalement repoussée sine die. Il y a visiblement des problèmes avec l'écran qui se casse ou n'affiche plus correctement. Un incident industriel qui intervient 3 ans après le fiasco des batteries explosives du Galaxy Note 7.
Il y a une semaine exactement, le jour se levait sur Notre-Dame défigurée. Aujourd'hui, la vie reprend dans le quartier.
Oui, le périmètre de sécurité a été en grande partie levé dimanche sur l'île de la Cité. Les commerçants qui avaient dû baisser le rideau ont pu rouvrir leurs boutiques et les touristes sont plus nombreux que jamais. Reportage RTL de Romain Houg.
Depuis la réouverture de l'île de la Cité, ils sont des milliers à se presser au chevet de Notre-Dame. Touristes et parisiens, chrétiens ou non, ça ne désemplit pas. Yann est venu avec 4 jeunes. Il est prêtre à Compiègne dans l'Oise. Impossible pour lui de ne pas passer par la cathédrale.
On avait décidé avant de venir à Paris et là on a décidé, vu les événements, de venir prier le Seigneur au pied de Notre-Dame. On va prier le chapelet, voilà, pour demander au Seigneur qu'il reconstruise son église. Voir aussi toutes ces personnes qui viennent autour, c'est assez marquant de voir qu'on est attaché encore à notre église.
Eliane et Jean-Paul, eux, sont 2 septuagénaires venus de Seine-Saint-Denis spécialement pour constater ce qu'il reste du monument.
On a de l'espoir parce que là, on regardait les vitraux qui n'ont pas été touchés apparemment.
Il y a plein d'étais de mis déjà en bois pour soutenir les parties fragiles.
Ça vous rassure ?
Ça me rassure, ouais. Je pense que les pierres sont bonnes, il n'y a que le toit à refaire entièrement.
Et ils sont nombreux à être rassurés, la cathédrale est debout. Tous espèrent désormais l'avoir reconstruite au plus vite, et ce, même si beaucoup doutent que cela soit possible dans les 5 prochaines années.
Reportage RTL de Romain Houg à Notre-Dame. Les JO de Paris en 2024, ce sera sur France Télévisions en clair. Le groupe a décroché les droits de retransmission. On ne connaît pas le montant du contrat, mais l'américain Discovery, propriétaire de ces droits pour l'Europe, avait estimé que cela valait au moins le prix payé pour une Coupe du Monde de foot. Pour information, TF1 a payé 130 millions d'euros pour le dernier mondial.
Merci beaucoup Isabelle et à tout.